Pierre de Villeneuve.
Bonjour Sophie Tussaud.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 7h.
Des insultes, des chambres qu'on a retrouvées dans des états parfois pitoyables. Une employée qui se prend une gifle par un client parce qu'elle lui a demandé de remettre son masque, ça a été tendu.
Les Français contraints de passer leurs vacances sur le territoire l'année dernière à cause de la pandémie se sont assez mal comportés. La ville de Marseille en a fait les frais et voudrait limiter cette année le nombre de visiteurs.
L'enquête sur l'attentat de Rambouillet vendredi se poursuit. Les motivations de l'assaillant ne sont toujours pas connues.
Thomas Pesquet et ses acolytes américains et japonais accueillis chaleureusement à bord de l'ISS. Aujourd'hui dimanche, c'est repos et à partir de demain, l'équipage entrera dans le vif de la mission.
Et puis, le journal se terminera en musique avec la sortie du nouvel album de Marca dont vous connaissez déjà bien la fille.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le 3 mai, ce sera donc la fin de la règle des 10 km pour se déplacer et bien sûr le début de la saison touristique.
Et alors pas d'annonce encore sur l'ouverture des frontières et comme l'année dernière, les vacances pourraient bien se dérouler en majeure partie en France. Certaines villes voudraient anticiper l'arrivée massive de vacanciers comme Marseille, destination phare de 2020 où les touristes ne se sont pas très bien comportés. Stéphane Frangy.
De très mauvais souvenirs de l'été 2020 pour Arnaud Payette, alors dirigeant d'un hôtel 4 étoiles sur le Vieux-Port.
La carte postale a parfois été un peu entachée. On a quand même eu une certaine clientèle qui a eu du mal à se comporter de la bonne façon. Des insultes, des chambres qu'on a retrouvées dans des états parfois pitoyables. Une employée qui se prend une gifle par un client parce qu'elle lui a demandé de remettre son masque, ça a été tendu.
C'est pourquoi l'adjoint au tourisme à la mairie, Laurent Lardite, réfléchit à des moyens pour privilégier si possible la qualité à la quantité.
Il faut aussi penser à l'avenir. La surfréquentation, ça n'est pas une solution pour remplir les tiroirs caisses. Au contraire, le risque d'affecter l'image de la ville si les choses se passent pas bien.
Constat partagé par l'Office du tourisme, présidé par Marc Thépot, qui se montre toutefois plus optimiste pour cet été.
Par rapport à l'année dernière, les protocoles sanitaires sont plus acceptés, donc il y aura beaucoup moins d'incivisme. La deuxième chose qui change, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience de la ville et de la préfecture sur l'importance de la sécurité.
Et en effet, un grand plan stratégique pour encadrer l'afflux touristique sera présenté par la mairie le mois prochain. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Emmanuel Macron s'est déplacé hier à Rambouillet. Le président a rendu visite à la famille de Stéphanie, la fonctionnaire de police tuée de 2 coups de couteau vendredi à la gorge dans l'enceinte du commissariat.
4 personnes sont en garde à vue, parmi lesquelles le père de l'assaillant, un Tunisien de 36 ans, dont les motivations restent encore floues. Marion Dubreuil.
Oui, le suspect souffrait de dépression. Il consultait un psychiatre depuis quelque temps. Il revenait tout juste d'un séjour en Tunisie au mois de mars et sa famille s'inquiétait pour lui. Depuis le confinement, il était fragile psychologiquement. D'après son entourage, il avait changé depuis moins d'un an. Il était beaucoup plus religieux, notamment sur les réseaux sociaux. Il publiait des versets du Coran et des prières. Les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé plusieurs anachides dans son smartphone, des chants religieux musulmans que le suspect a écouté juste avant de passer à l'acte. Le jour de l'attaque, il avait effectué des repérages autour du commissariat. Les caméras de vidéosurveillance ont enregistré ses allées et venues d'après sa famille. Pourtant, ce Tunisien de 36 ans avait pour projet de s'installer définitivement en Tunisie. Selon sa cousine, il avait un vol Paris-Tunis prévu hier au lendemain de l'attaque.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Dans ce contexte, Gérald Darmanin va présenter une loi antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur veut adapter les moyens de lutte contre le terrorisme islamiste.
Il y a un texte qu'il présente donc ce matin dans les pages du journal du dimanche et dont nous parle le journaliste du JDD Pascal Sceau.
Aujourd'hui, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Rambouillet, l'auteur était un inconnu des services de police. Il était en France depuis 10 ans, mais il avait totalement échappé au radar. Mais c'est en tout cas un profil un peu récurrent maintenant. Il y en a eu plusieurs comme ça de suite. Et du coup, dans le projet de loi que le ministre de l'Intérieur va présenter mercredi au Conseil des ministres, il y a un volet assez important sur le renforcement technologique de la lutte antiterroriste. Il va permettre ce projet de recourir à l'usage des algorithmes sur les réseaux sociaux qui permettent peut-être de détecter un peu mieux les signes avant-coureurs de radicalisation et de passage à l'acte terroriste. Il y a aussi des moyens supplémentaires qui sont donnés aux services spécialisés, en particulier à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le chef de file de la lutte antiterroriste en France.
Pascal Sceau du JDD avec Diane Berger.
Voilà, nouvelle loi antiterroriste et puis changer la loi, voilà ce que veulent les proches de Sarah Halimi. Rassemblement aujourd'hui à 14h. On y revient à 7h30 dans le journal et François Khalifa, le président du CRIF, sera notre invité à 7h40. 40.
Une lueur d'espoir dans la crise actuelle provoquée par la pandémie. Les embauches de plus d'un mois repartent à la hausse au premier trimestre dans le secteur privé. De bon augure, Olivier Samin, avant la sortie du confinement.
Oui, plus 6,4% au premier trimestre, à comparer au moins 14,5% du trimestre précédent, frappé, rappelons-le, par le deuxième confinement. Ce rebond enregistré en janvier, février, mars est celui des embauches hors intérim, qu'elles soient en CDI ou en CDD de plus d'un mois. C'est l'ACOSS, l'organisme qui coiffe les URSSAF, qui vient de publier ces chiffres. Les URSSAF, on le sait, sont aux premières loges pour analyser le marché du travail, puisqu'elles reçoivent les déclarations d'embauche et perçoivent les cotisations sociales. Au premier trimestre, la reprise des embauches a été deux fois plus forte dans les petites entreprises, les entreprises de moins de 20 salariés, que dans les entreprises de plus grande taille. Et c'est surtout dans l'industrie que ça repart, plus 11%, alors que le secteur tertiaire et le BTP n'ont vu leurs embauches n'augmenter en moyenne que de 4,5%.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Alors, c'est le printemps et c'est vrai qu'en dans cette période de l'année, généralement, on célèbre les communions. Depuis l'année dernière, avec l'arrivée de la pandémie, bien toutes les célébrations religieuses sont perturbées.
Oui, en raison des restrictions sanitaires, la limitation des déplacements et du nombre de convives. Résultat, les familles ont dû renoncer à se rassembler, ce qui a beaucoup déçu. Alexandra Siergan.
Cela faisait déjà un an qu'Axel, 10 ans, attendait d'entendre le son des cloches fêtant sa communion, rituel incontournable pour les enfants catholiques. Elle a finalement bien eu lieu, mais en plein confinement. Alors à la grande frustration de sa maman Hélène, le comité a dû être réduit.
C'est frustrant et c'est même triste, parce que tout le monde se rappelle sa première communion. Moi je me la rappelle, c'était en fait qui réunissait les grands-parents, les oncles, la marraine, la parrain. Et là, c'est seulement célébration à l'église, mais tout ce qu'il était derrière, donc la fête, il n'y a pas eu lieu.
Et du côté de l'organisation, c'est tout aussi compliqué. Evelyne Montigny, responsable du catéchisme à Notre-Dame de Boulogne, avait organisé une grande communion le 11 avril pour ses élèves, mais ça ne s'est pas passé comme prévu.
On en a juste eu 3 sur 25. C'est un fiasco total. Les parents ont absolument refusé de mélanger les enfants, parce que le 11 avril, ça faisait une semaine que les enfants étaient confinés.
Impossible de prévoir une autre date pour le moment, et pour assurer la continuité des baptêmes, Evelyne doit parfois jouer le rôle de la marraine.
Les parrains-marraines venaient d'Italie, donc j'ai signé à la place de la marraine.
Les paroisses ont reçu pour directive de faire le plus de célébrations possible pour éviter de nouveaux reports à l'année prochaine.
Alexandra Siergan.
Et vous restez avec nous dans un instant.
Merci à tous les gens qui ont travaillé sur cette mission en français et puis un petit
on
mot pour les familles.
On va prendre des nouvelles de Thomas Pesquet dans l'espace et puis on parlera musique également avec la sortie de l'album de Marca. Marca c'est qui? C'est le père de la chanteuse Angèle. À tout de suite.
Europe 1. Votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Sophie Tussaud, c'est un dimanche pas comme les autres. Pour Thomas Pesquet, le spationaute est arrivé hier à bord de la Station Spatiale Internationale où il va effectuer une mission de 6 mois.
Et aujourd'hui, c'est jour de repos à bord de l'ISS et Diane Berger nous retrace les premières heures de Thomas Pesquet à bord.
Hello everyone, welcome on board Endeavour.
Ça y est, l'astronaute s'est remis à tweeter hier soir et il raconte avoir vécu un véritable retour à la maison. Sur le réseau social, il décrit le décollage qui l'a impressionné. Comme c'était son deuxième, il pensait que ça ne lui ferait plus rien. Quelle erreur, commente-t-il, probablement les meilleures sensations de ma vie. Dans la soirée, Thomas Pesquet a aussi pris le temps d'appeler ses proches. Il leur avait déjà adressé un message dès son arrivée dans la station.
Un petit mot pour les familles et les amis qui sont déplacés jusqu'à Cap Canaveral. Ça n'a pas été un voyage facile. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de les avoir avec moi. Merci à tous.
Endeavour arriving. Aujourd'hui, c'est jour de repos pour l'astronaute. L'occasion de se refamiliariser avec les 400 mètres cubes d'espace habitable de l'ISS, de refaire des photos aussi de la planète, comme pendant sa première mission. Lundi, en revanche, ce sera la rentrée. Thomas Pesquet et son équipe vont commencer les expériences scientifiques. Ils devront en réaliser au total près de 200.
Diane Berger, retour sur Terre avec du cyclisme. Julien Alaphilippe sur les traces de Bernard Hinault. Le peloton conclut aujourd'hui le diptyque des Ardennaises avec Liège-Bastogne-Liège.
Près de 260 km en effet pour Liège-Bastogne-Liège. Parcours accidenté, départ 10h, arrivé 17h. Julien Alaphilippe était passé de peu à côté de la victoire l'an dernier. Axel May.
Arborant son maillot de champion du monde, la confiance en hausse après sa troisième victoire sur la Flèche Wallonne mercredi, Julien Alaphilippe se présente au départ de Liège-Bastogne-Liège comme l'un des favoris et le coureur de Montluçon dégage une force tranquille.
Mais voilà, il faut pas non plus s'enflammer. Liège, c'est une course différente de la Flèche, même si c'est toujours un bon indicateur. Il faut rester tranquille et concentré. Et par contre, oui, c'est vrai que je l'aborde dans de bonnes conditions avec la motivation à bloc, une belle équipe au départ et on aura à cœur de bien faire.
Et pourquoi pas devenir le premier Français depuis Bernard Hinault à remporter la doyenne des classiques. L'an dernier, à l'issue d'un Liège-Bastogne-Liège exceptionnellement disputé à l'automne en raison de la crise sanitaire, Julien Alaphilippe avait même cru gagner, levant les bras trop tôt avant de se faire passer sur la ligne d'arrivée par le Slovène Primož Roglič, puis d'être déclassé pour avoir dévié de sa trajectoire dans le sprint final. En attendant, cela fait 41 ans que plus aucun Français ne s'est imposé à Liège.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
T'as vu la tristesse sur laquelle il a dit ça? Ça fait 41 ans qu'on ne s'est pas imposé sur le Liège-Bastogne-Liège.
Allez, on passe au football. Un peu moins de tristesse. 34e journée de Ligue 1, le PSG a repris à Lille la première place après sa victoire à Metz 3-1, ce qui oblige le LOSC du coup aujourd'hui à la victoire à Lyon pour récupérer son fauteuil de leader.
Alors, on dit souvent fils d'eux ou fille d'eux, mais là c'est père d'eux et on parle du père de la chanteuse Angèle et de Roméo Elvis.
Marca qui chante aussi, on connaît un peu moins son nom. Il sort un album inspiré notamment par le succès de ses enfants, Angèle Châtelier.
Vous savez, j'ai des enfants qui ont pris beaucoup de place. Voilà, j'ai parfois envie de dire, bon, allez, un peu de place pour papa maintenant.
Marca, le père de la chanteuse Angèle et du rappeur Roméo Elvis, était sur scène bien avant leur succès, dans les années 90 avec son groupe Allez Allez ou en solo. Dans sa chanson Le Daron, il chante qu'il est bien là, toujours. Le Daron bouge encore, dit-il, alors qu'on le donnait pour mort.
Le Daron bouge encore alors qu'on donnait pour mort et que les vautours déjà lui tournaient autour.
Et Marca est lucide.
C'est évident que si mes enfants n'avaient pas été mes enfants, on s'intéresserait moins à moi. Mais voilà, autant en profiter.
Mais ses enfants, leur vie familiale ou musicale, c'est loin d'être le fil rouge de son album, comme il le souligne.
Moi, j'ai envie de raconter le temps qui passe, mais en même temps, on sent qu'on vieillit. Mon album est truffé de chansons qui parlent de ça, mais aussi de moments très festifs, comme dans Tu es formidable ou Poulette.
My dog is a DJ.
Des moments où j'ai envie de m'amuser et revenir à l'essence même de ce métier qui est de s'amuser sur scène avec des gens.
Ce qu'il faisait déjà avec sa fille Angèle qui, à 10 ans, l'accompagnait sur une chanson sur la scène des Francofolies de Spa en Belgique. En attendant, il chante l'espoir de pouvoir y retourner dès demain.
Angèle Châtelier.
La musique, c'est de famille. Hein.
Ouais.
Merci Sophie Tussaud, à tout à l'heure pour le Grand Journal de 8h.